silence.
Vous êtes toujours sur Radio Entre Deux Mers et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma. Et comme tous les mercredis, je suis accompagnée de Anne. Salut Anne.
Salut Thibault. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons tous les deux et nous retrouvons évidemment avec le plus grand plaisir nos chers auditeurs. Bonjour chers auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous. Merci pour votre fidélité à notre belle radio, à toutes nos émissions et donc belle musique. Voilà, en tout cas. Alors, on va commencer par vous parler de cinéma, justement. Voilà, quelque chose qui fait du bien quand on ne va pas bien. On va voir un film et ça fait beaucoup de bien. D'accord.
Surtout qu'on commence aujourd'hui avec une bonne grosse dose d'animation aujourd'hui.
Ben oui. Alors, on va commencer par l'animation qui est préconisée à partir de 3 ans. Ça s'appelle « La naissance des oasites ». Donc, 0h41, enfin c'est 41 minutes, voilà, c'est de l'animation, c'est pour toute la famille, bien sûr. Oh, les petits bouts de choux de 3 ans. Alors, un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s'unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée, ou encore des bergères qui dansent, où il y a encore des bergères qui dansent avec les nuages. Oh, il y a tout ça, on va voir tout ça. Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu'il y a tout autour de nous de multiples raisons de s'émerveiller et de rêver. Enfin, n'oublions pas qu'il existe dans la nature un petit quelque chose qui vaut que l'or, le pétrole et les diamants, et ça s'appelle le germe de la vie. Alors, c'est un programme de 5 courts-métrages. Alors, on a Drops, alors, réalisé par le Danemark, c'est Sarah Joy Jungen et Carsten Kalhoff Hop, qui sont des réalisateurs ça dure 5 minutes. Lors d'une averse, un nuage sème une petite communauté de gouttes de pluie sur la Terre. Ensemble, elles fuient le soleil et elles tentent de continuer leur chemin en suivant au plus près les nuages. Mais l'exposition aux rayons de soleil est-elle vraiment synonyme de faim pour ces gouttes de pluie? Point d'interrogation. Ensuite, on a La naissance des oasis de Marion Jameau, qui est une réalisatrice française. Un serpent qui a le sang trop froid et un chameau qui a le sang trop chaud se lient d'amitié. Ensuite, on a Suzy in the Garden, Suzy dans le jardin, de Lucy Senkova. Alors, c'est la République tchèque là, qui nous l'a réalisé, le Suzy in the Garden. Suzy se rend régulièrement avec ses parents en dehors de la ville, dans des jardins partagés. Un jour, elle y rencontre un chien noir et lui fait découvrir un jardin secret. Et ensuite, nous avons « Il pleut, bergère » de Jérémy Depuis, qui est un réalisateur français. Des bergères vivant sur le sommet du monde empêchent les nuages de fertiliser la terre grâce à leur précieuse eau. Mais l'une d'elles, à la chevelure bleue, entreprend de se rapprocher d'un nuage noir à travers une chorégraphie qui précipite sa chute. Du grondement des nuages que provoque cet épisode viennent l'orage et la pluie qui engendre une fertilisation des sols. Ensuite, on a, c'est le dernier court-métrage, Something, quelque chose, d'Elena Wolf, qui est une réalisatrice allemande. 3 gigantesques montagnes sont très fières des trésors qu'elles renferment. Il y a le pétrole, l'or et le feu. Pour la petite montagne qui se trouve à leur côté, il est impossible de rivaliser. Elle ne possède que cet étrange, minuscule et dérisoire petit quelque chose. Voilà nos 5 courts-métrages, c'est ravissant, absolument. C'est très, très joli. Les enfants vont se régaler à partir de 3 ans. Voilà, c'est produit par l'Allemagne, le Danemark, la France et la République tchèque. Oui, c'est vraiment un très joli film. La naissance des oasis à partir de 3 ans. Ensuite, on va passer à un autre film d'animation, si tu veux, Thibaut.
Alors, allons-y.
Ça s'appelle Le Royaume de Naya. Alors là, ça dure 1h39, c'est de l'animation pour la famille, c'est du fantastique, c'est de l'aventure. C'est réalisé par 2 réalisateurs ukrainiens. On a Oleh Malamzyuk, oui, enfin pour la prononciation, oh mes chéris, il faut me pardonner, hein. Oleh Malamzyuk, ouais, c'est pas... Et Alexandra Ruban. Ce sont donc 2 réalisateurs. Enfin, elle, c'est une réalisatrice. Lui, c'est un réalisateur. Ils sont ukrainiens. Ils travaillent ensemble. Et oui, ma foi. Et ils nous font de jolies choses. Alors, de quoi s'agit-il? Le royaume de Naya. Par-delà les hautes montagnes noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu'au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Luca, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l'encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir sans prendre garde aux conséquences qui s'abattront sur le royaume. L'aventure ne fait que commencer. À partir de 6 ans, ben oui, c'est beau comme tout. Et je pense que Thibaut a une surprise pour nous.
Donc, Le Royaume de Naya, la bande-annonce tout de suite.
Depuis la nuit des temps, les humains et les êtres de la forêt sont en guerre. Ma chère Naya, c'est toi l'élu. Tu dois protéger notre royaume.
Bonjour, mon nom est Luca. Il paraît que vous cherchez quelqu'un. Que faut-il que je fasse?
Je veux que tu trouves cette feuille magique. Dans la forêt, derrière les hautes montagnes.
La légende dit qu'il y a des démons là-bas. Wow, je n'avais jamais rencontré de démons avant toi.
Je ne suis pas un démon, je suis Naya. Je suis l'esprit de la forêt.
Entends ce poème.
Tu réalises à quel point c'est illégal?
On peut s'envoler.
Cet humain n'est pas différent des autres. Il finira par te trahir.
Incroyable.
Il n'y a qu'une seule façon de détruire le mal. Frappez en premier! Fuis et ne reviens jamais.
Notre amour est infini.
Est-ce que je suis le seul à ne rien comprendre du tout?
Tu as une grande bonté et un grand cœur, Naya.
C'était la bande-annonce du Royaume de Naya. Et du coup, je te propose de passer à la suite on est en plein dedans, les contes de printemps.
Ah oui, contes de printemps. Alors ça, c'est à partir de 6 ans également, hein, comme la princesse, comme le royaume de Naya. Ça dure 47 minutes par contre, c'est moins long, je ne sais pas, mais moins long, c'est sûr, que le royaume de Naya, j'avais dit 1h39, hein, je crois. Donc là, c'est 47 minutes, c'est d'animation pour la famille. Et c'est pareil, alors c'est un programme de 4 courts-métrages pour réveiller la nature et réveiller les cœurs. Le printemps s'annonce au milieu de la jungle, de la forêt. La nature reprend ses droits. Les rencontres en surprennent plus d'un. Les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d'une grande originalité portées par de jeunes talents de l'animation pour fêter cette saison pleine de promesses. On a donc l'esprit de la forêt de Nandini et Nirupa Rao et quelques Sangvi qui sont des réalisateurs des Indes. Ils viennent des Indes, ces 3 jeunes réalisateurs. C'est l'histoire d'une jeune fille intrépide qui pénètre dans les sous-bois près de son village du sud de l'Inde. Elle dérange alors l'esprit de la forêt qui l'entraîne dans une aventure à la découverte des origines de cet endroit sacré. Ensuite, j'ai Colocation sauvage d'Armel Merca, réalisatrice française. Avant que la mousson n'arrive, une chèvre idéaliste décide de construire une cabane en pleine jungle pour s'y réfugier. Le déroulement des travaux va l'amener à partager les lieux avec de dangereux colocataires. Et puis j'ai La Reine des Renards de Marina Rosset, réalisatrice suisse. Dans l'espoir de redonner le sourire à leur reine, les renards attendent chaque nuit dans la ville à la recherche de lettres d'amour qui n'ont jamais, jamais été envoyées. Et puis pour finir, Mélodie des Bois de Philippe Diviak, qui vient de la République tchèque. Un troubadour est expulsé de la ville lorsque la reine voit son visage. Les gardes du palais brisent son instrument en guise de punition. Mais le musicien ne perd pas sa détermination et il continue à faire de la musique au milieu des bois. Voilà ces quatre courts-métrages. C'est adorable absolument. À partir de 6 ans, c'est vraiment très, très beau. Voilà, l'esprit de la forêt. Eh ouais, c'est très joli ça. Conte de printemps. Alors, ben maintenant, on va entrer dans le monde des grands. Fini les 3 ans et 6 ans, hélas. Eh oui, on ne peut pas toujours rester avec les petits. On va retrouver les grands. Et alors ? On va passer à un film, donc un long métrage, qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Alors, c'est un… Je verrai intrigue. Toujours vos visages. C'est un drame qui dure 1h58 de Jeanne Herry. Alors, Jeanne Herry, quand même, c'est pas beaucoup d'éducateurs le savent quand même, que c'est la fille de Julien Clerc et de Miu Miu, Jeanne Herry. Eh oui, elle est réalisatrice, scénariste, actrice, donc française. Elle a 44 ans, 24 ans de carrière. Elle a réalisé 10 tournages. Non, c'est-à-dire qu'elle, elle a été actrice, donc il faut que je fasse attention. Elle a réalisé effectivement un court-métrage, ensuite l'a réalisé pour la télévision, 10%. Elle a, oui, bah c'est ça, elle a 2 longs métrages à son actif, un court métrage et 2 saisons pour la télévision. Ah, c'est ça. Mais elle a participé à 10 tournages après en tant qu'actrice et elle a quand même, j'avais noté qu'elle a 2 prix. Ah, c'est ça. Elle a eu 2 prix et 10 nominations. Alors, pour son film, elle a au César 2019 pour son film Pupille, qui a très, très bien marché. On en avait parlé à Radio Entre-deux-Mers de ce film. Bah oui, il a quand même 4-5 nominations. Oh là là, oui, 6 nominations. Oh là là, ouais. Et pour Marché aussi, et pour Elle l'adore, sorti en 2009 et 2014, elle a eu le prix Michel Dornano et le prix TPS Star. Donc, elle fait du bon boulot, Jeanne Herry. Et alors, c'est quoi ça? Je verrai toujours vos visages. C'est un joli titre, je trouve. Depuis 2014, en France, la justice restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel, qu'on voit évidemment dans le film. Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vol avec violence. On a Grégoire, Nawel et Sabine, victimes de homejacking, de braquage et de vol à l'arraché. Mais on a aussi Chloé, victime de viol incestueux. Et tous ces personnages s'engagent dans des mesures de justice restaurative. Sur leur parcours, il y a de la colère, il y a de l'espoir, il y a des silences et des mots, il y a des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de la confiance retrouvée. Et au bout du chemin, parfois, la réparation. Alors évidemment, inutile de dire que c'est un très beau film. Alors dans les rôles, on les connaît quasiment tous. On a Adèle Exarchopoulos, qui joue d'ailleurs la jeune Chloé. On a Dali Ben Salah, c'est Nassim. On a Leïla Bekti, c'est Nawel. On a Elodie Bouchèze qui joue, qui a le rôle de Judith. On les connaît, tous ces acteurs. Ensuite, on a Gilles Lelouch, On a Suliane Brahim, c'est Fanny d'ailleurs, oui. On a Miu Miu dans ce film. Et oui, dans le film de sa fille, de sa chère fille réalisatrice, on a Miu Miu qui joue le rôle de Sabine. On a Jean-Pierre Darroussin, on a Fred Testo, on a Denis Podalides, etc. C'est un très, très beau casting. Très, très beau casting, Catherine Arditi. Enfin, il y en a tellement, je ne peux pas tous les citer. Dans les rôles principaux, je les ai cités dès le départ. C'est vraiment un film qui on ne peut pas passer à côté. D'ailleurs, il est titré que c'est un grand film réparateur, brillant, avec un casting exceptionnel. C'est un film bouleversant, puissant et salutaire. Voilà ce qu'on nous dit, ce qui est titré pour ce film. D'ailleurs, alors Jeanne Herry, dans ce film, éclaire un endroit du réel peu connu, effectivement, qui propose des outils porteurs d'espoir. Moi, je ne connaissais pas effectivement, je ne sais pas si toi tu connaissais, Thibault.
Non, ça ne me dit rien du tout.
Ben voilà ce qu'ils appellent la justice restaurative. C'est un restauratif, c'est le mot important, une justice restaurative. Et justement, c'est pour ça qu'elle en parle, parce que effectivement, on ne connaît pas beaucoup ces outils. Eh oui, elle a rapidement décidé, Jeanne Herry, de mettre en scène des rencontres détenues victimes autour des vols avec violence. Pour elle, c'est une problématique sociale et sociétale assez banale, mais dont on mésestime les effets ravageurs sur les victimes. Elle nous dit que les violences intrafamiliales n'ont pas de frontières sociales. Elles frappent tout type de famille, de quartier et de classe. Ce sont des guerres sourdes qui ont lieu derrière les murs. Voilà ce qu'elle nous dit. Et c'est vrai. C'est vrai que c'est important, je pense. En tout cas, je voulais absolument parler de ce film. Je verrai toujours vos visages. Eh ouais, c'est français, hein, c'est produit par la France. Ensuite, on a, ah oui, celui-là aussi, il fallait en parler, Ailleurs si j'y suis. Bon, ça, c'est une comédie, hein. Ça dure 1h43, et on doit cette comédie à François Pirot, réalisateur, scénariste, belge. Mais on a déjà parlé de lui, de toute façon. Bah oui, François Pirot. Il a 16 ans de carrière, il a 10 tournages à son actif. Alors, j'avais noté qu'il a eu un prix et il a 10 nominations déjà dans sa carrière sur 10 tournages, c'est pas mal du tout. Donc, François Pirot. Il y avait Mobile Home qui avait très, très bien marché, son long métrage qui est sorti en 2012. Ah oui, très, très bien marché. Un prix, beaucoup de nominations. Et là, je pense que ça va plaire à tout le monde, ce film va plaire à tout le monde. Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s'enfonce dans la forêt devant chez lui. Et il y reste. Face à cette démonstration de liberté, ses proches s'interrogent sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie. Et s'il avait raison, là c'est un point d'interrogation de la part de la famille, justement. Alors, on a un joli casting aussi, là. Jérémy Régnier, qui joue le rôle de Mathieu. Oh. On a Suzanne Clément. On a Jean-Luc Bideau. On a Samir Ghesmi dans les rôles principaux. On les connaît, c'est des talents. Hein. On a Jackie Berroyer. On a Lisa Harder. On a Bérangère McNeese dans ses rôles principaux, là. Ouais. Il a travaillé avec Emmanuel Marais, François Pirot, Emmanuel Marais, qui est un scénariste français. Alors, c'est pareil, je ne pouvais pas passer à côté quand même. Ce qu'il voulait faire, François Pirot, c'est écrire une série de personnages qui n'arrivent pas à accepter ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont en train de devenir. Il nous dit, leur insatisfaction est à l'image de celle plus large de la société dont ils font partie. Une société privilégiée, mais qui peine à se réinventer, à se construire des idéaux ou des croyances afin d'aborder l'avenir avec un minimum d'enthousiasme. Il a écrit d'ailleurs, Ailleurs si j'y suis, bien avant la pandémie. Et pourtant, on l'interroge systématiquement sur ce parallèle lors de projections publiques du film. Alors, il nous dit que la pandémie a fonctionné comme un révélateur de problématiques et d'insatisfactions qui étaient déjà bien présentes avant son arrivée. Mais oui, bien sûr. Avant cette pandémie, c'est sûr qu'il y avait déjà des problèmes d'insatisfaction. Eh oui. Voilà. Donc, c'est pareil. Je n'avais pas envie de passer à côté de ce film. Ailleurs, si j'y suis.
Et maintenant, je te propose qu'on parte en Colombie.
Oh, mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Le train, l'avion, la voiture, le bateau? Qu'est-ce qu'on prend alors? On prend l'avion?
Faut peut-être prendre le bateau d'abord, non?
Oh, ben on verra alors. Hein. Faudra voir jusqu'à ce qu'on y arrive quand même.
C'est ça.
Ça s'appelle Los Reyes del Mundo, c'est-à-dire les rois du monde. Tout simplement. Ça dure 1h51, c'est du drame, c'est de l'aventure. Et c'est Laura Mora qui nous propose ce film, réalisatrice, scénariste colombienne, absolument. Et oui, elle est tout à fait charmante, je crois. Je crois que je l'avais vue je l'ai écoutée en interview et je la trouvais plutôt intéressante, Laura Mora. Elle a travaillé avec Maria Camila Arias, qui est une scénariste colombienne. Et alors, c'est quoi, là? On nous parle du « Ah, le jeune rat vit avec ses amis, Culebro, Serré, Winnie et Nano, dans les rues de Medellín. Leur espoir renaît lorsque le gouvernement promet à rat le droit d'acquérir un terrain duquel sa famille avait été chassée, comme des milliers d'autres Colombiens, par les paramilitaires. La bande de copains se met donc sur la route périlleuse qui mène dans l'arrière-pays. Pardon. Un voyage palpitant entre aventure et délire commence. Un sacré voyage. Ah oui. Alors c'est produit par la Colombie, la Norvège, le Luxembourg, le Mexique et la France. Ce long métrage. Ouais. Los Reyes del Mundo. Les rois du monde. Ouais. C'est pareil. J'avais pas envie de passer à côté. Bon, ben écoute, on quitte la Colombie, tu veux bien, Thibaut?
Quittons la Colombie alors, oui.
Alors, hein, tu veux bien qu'on... Bon, ah, d'accord.
Oui, oui, oui.
Alors, on arrive sur un film qui s'appelle Apache. Apache au pluriel. Oh, on va voir ce que c'est. Ça dure 1h35, c'est un drame et c'est historique. Et c'est Romain Quirot qui nous l'a réalisé, Romain Quirot, réalisateur, scénariste, chef, monteur, français. Voilà, Romain Quirot. C'est un jeune réalisateur, Romain Quirot. Alors, on nous dit qu'il y a un avertissement, ça c'est à noter mes chéris, bien sûr, toujours, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Alors, on se retrouve en 1900. Allez, on part à Montmartre.
Hein, et on voyage là, même dans le temps, c'est un truc de fou. Ça.
Voilà, ce sera 1900 de Montmartre à Belleville. Paris est aux mains de gangs ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale. Les Apaches. Ouais, c'était pas les Apaches, non, c'était les Apaches parisiens. C'était pas avec les plumes et tout ça. Hein. Oh non, les Apaches à côté étaient charmants, eux, par contre. Oui. Les vrais Apaches. Oh ben oui, certainement. Tandis que ces Apaches-là, ils sont quand même ultra violents. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier. Ah ah! Mystère, mystère. Alors, on a un casting, un joli casting. Alice Izaz, qui joue le rôle principal, le rôle de Billy. Elle est très, très, très... Elle est charmante et très compétente, Alice Izaz. C'est une très bonne comédienne. On a Malik Frika. On a Nils Schneider. Et oui, oh ben c'est pour ça que je dis que c'est un joli casting. On a Chloé Pelex. On a Roth Parado, on le connaît, on a Artus. Oh ben on connaît Artus quand même. Hein. On a Lisandro de Freitas, de Carvalho, qui joue le rôle d'un enfant, de Poli enfant. Lisandro, il a un sacré nom, hein, Lisandro de Freitas, de Carvalho. C'est un joli nom, je trouve.
C'est vrai.
Pas mal, Ah, c'est pas banal. Puis Artus, on est content de retrouver Artus. Ben, on est content aussi de retrouver Bruno Locher dans ce film. Émilie Gavoacan aussi, qu'on aime beaucoup. Rossi de Palma, voilà. C'est pour ça que je disais que c'était un joli casting. Dominique Pinon. Ah, tous ces gens-là, on les connaît. Hugo Becker, ben oui, bien sûr. Armel Habibou. Ouais, ouais. Ah, ben oui, oui, oui. Là, c'est un régal, hein, tous ces acteurs et ces actrices. Ouais, ouais. Alors bon, ben voilà, le Romain Quirot, il a voulu s'attaquer à un film de gangster. Voilà. Il précise d'ailleurs, toujours en l'ancrant dans un univers coloré pop et français. Oui. Alors bon, là, effectivement, la société qui s'appelle Apache, hein, c'est la société de sa productrice qui s'appelle comme ça, Apache. Alors j'avais lu un petit truc là-dessus, sa productrice, donc c'est Fanny, je sais plus, Fanny Payou, oui, je l'avais noté. Sa société s'appelle Apache et lui, elle a parlé à Romain Quirot, réalisateur, de ces gangs qui faisaient. Parce que c'était en 1900, qui faisait régner la terreur à Paris. Eh bien, l'idée lui a beaucoup plu. Et il s'est lancé dans cette histoire. Alors, il a voulu situer le film pendant la Belle Époque. Une période, dit-il, où il régnait une soif de vivre particulièrement vibrante. Il faut dire que les inventions se succèdent, nous dit-il, à un rythme frénétique. L'électricité, bien sûr, mais aussi l'aviation, l'automobile, le cinéma. Chaque jour, le monde change, emporté dans une folle course en avant. Une course qui sera brusquement interrompue par la Première Guerre mondiale. Les Apaches, donc, c'était des bandes de voyous hein, qui proliféraient absolument de Montmartre à Belleville au début du XXe siècle, justement. Voilà, c'était vraiment... voir chaque jour le lever du soleil, c'était leur seul horizon. Ils nous disent ça. Jouer avec la mort, c'était leur seule raison de vivre. Hein. Et ils n'auraient changé pour rien au monde ce mode d'existence. Une poésie teintée de rage. Voilà ce qu'on nous dit sur ce film. C'est pareil, quoi. J'avais pas envie de passer à côté.
Eh bien, raison de plus, du coup, pour regarder, pour écouter la. Écoutez, hein. J'ai dit regarder, mais je me reprends. Pour écouter la bande-annonce.
D'accord, merci.
Eh bien, tout de suite, la bande-annonce de Apache.
D'accord, très bien.
Paris à peu et à cent, les Apaches pour régner la terreur.
Le gang n'obéissait à aucune loi. Il semait la terreur en toute impunité. Tout ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la butte.
Jeff Bonvert, à vous. Parce que vous ne vous mettez pas à genoux.
Alléluia !
Je suis un gars bien.
Et pourtant, ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps.
Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville.
Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous ? Ah bah parce qu'on fout un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom ?
Billy. Je vais devenir une Apache. Moi, j'avais un plan. Ils pensaient que m'enfermer suffirait à l'anéantir. Mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable. Et elle va devenir leur pire cauchemar.
Mais méfie-toi, ma belle. Jésus, on se brûle les ailes si on l'approche de trop près.
C'était la bande-annonce de Apache, et là, maintenant, on va rester à Paris, du coup.
C'est un film français et belge, au fait.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, on voyage énormément. On n'a pas encore dit la prochaine destination. On reste à Paris pour l'instant, mais la prochaine destination est sympa aussi.
Donc, on a un film. Pareil, je voulais en parler, ce film. Je suis sûre que c'est un très beau film. J'ai vu pas mal de bandes-annonces et j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Grand Paris, ça s'appelle. Eh oui, ça dure 1h12. C'est une comédie de Martin Jova. Martin Jova, c'est un réalisateur, scénariste, acteur français. Et il est très jeune. Ah oui. Oui, et alors, ça nous parle de Leslie et Renard, qui sont deux jeunes glandeurs de banlieue parisienne et qui trouvent un mystérieux objet sur un chantier de la future ligne de métro du Grand Paris. Voilà l'explication du titre. Hein. C'est la future ligne de métro du Grand Paris. Artefact, talisman antique ou relique d'une civilisation disparue, il se pose la question. Persuadés d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or, les deux amis mènent l'enquête avec les moyens du bord, le temps d'une folle nuit aux quatre coins de l'île de France. J'ai bien dit que c'était une comédie et qui est enlevée, une comédie très enlevée, justement. Alors, on a Martin Jovin qui joue le rôle de Renard, le réalisateur. Pour Leslie, c'est Mahamadou Sangaré. Pour Amine, c'est William Lebguil, on les connaît. On a Sébastien Chassagne aussi. Oh oui, qui joue Momo. Oh oui, oui, oui. On les connaît absolument. C'est un joli casting aussi, celui-là. Vraiment. Alors, on a aussi Darius. On a Nicolas Grindato. On a Marguerite Thiam aussi, dans les rôles principaux. Ah, Erwin Orillan aussi, oui, qui joue le rôle de Marvin. Darius, c'est Papy, hein, joue le rôle de Papy. Ouais. Ah, mais oui. Alors, le film a été présenté à la CID, au Festival de Cannes 2022. Et il a une nomination, justement, à la CID. Alors, Martin Jovin, lui, il a grandi à Chelles, en Seine-et-Marne. Donc, c'est situé à une vingtaine de kilomètres de Paris, hein, à laquelle, d'ailleurs, elle est connectée par deux lignes de transport. Il y a le RER E et la ligne Transilien P, Grand Paris. Voilà. Donc, c'est un habitué de la banlieue parisienne. Hein. Voilà. Il en parle, d'ailleurs, il l'avait filmé dans ses courts-métrages aussi. Et il a toujours été attiré, Martin Jovin, c'est ce qu'il nous dit, par le cinéma américain. Alors, il a des références quand même, qui vont des nouvelles Hollywood aux films de Spielberg, de Coppola, de Tarantino, en passant par les comédies de Jude Apatow. Ah oui, il a de sacrées références quand même. Alors, il nous dit d'ailleurs que les références au cinéma du genre américain de mon enfance, quand elles s'incarnent dans le décor inattendu de la banlieue pavillonnaire, me plaisent énormément, parce qu'elles réunissent dans une équation singulière des éléments a priori, contradictoires. Et oui, c'est un film français. Donc, je l'ai dit, hein, la nomination à la CID 2022. On ne pouvait pas passer à côté, n'est-ce pas Thibault ? Je suis sûre que celui-là, tu vas aller le voir.
Ouais, peut-être. Peut-être le prochain, plutôt.
Ah ouais, ouais.
Comme je disais, on voyage aujourd'hui et cette fois, on part en Italie.
Ah là là. Alors, tu exagères parce que tu étais bien en Colombie. Alors, tu vas venir en Italie.
Dangereux, la Colombie, quand même.
Bon, ben d'accord. Bon, alors, on revient de Colombie, on va en Italie, d'accord.
Okay. Ah ben, on est passé par Paris, entre-temps.
J'allais dire, on est passé par Paris. Donc, voyage en Italie. Alors, c'est voyage au pluriel. Voyage oui. En Italie. Au pluriel. Ça dure 1h31, c'est une comédie, mais oui, encore, de Sophie Le Tourneur. C'est une réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 17 ans de carrière, elle a 12 tournages à son actif, et alors quand même, elle a, je pense qu'elle a une quinzaine de nominations quand même déjà. Donc, bon, ça se passe bien pour elle, on est content, justement. Je crois qu'on avait déjà parlé d'elle, de toute façon. Ouais, Sophie Le Tourneur. Alors, là, il s'agit d'une escapade romantique. Mais cette escapade romantique peut-elle raviver la flamme dans un couple? Ah, elle a réussi à le convaincre de partir quelques jours sans enfant. Ce sera où il a envie, sauf en Italie. Il y est déjà allé avec toutes ses ex. L'Espagne? Bah. Les sentiers de l'Aubrac, bon, ce sera finalement la Sicile. Car selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie. on a un synopsis assez épatant, je trouve, quand même. Et on a un casting non moins épatant, puisqu'on a Philippe Catherine et Sophie Le Tourneur. Elle joue Sophie, donc. Et lui, c'est Jean-Philippe, Philippe Catherine. Ils sont quand même assez extraordinaires tous les deux. Ah bah oui, quand même. Alors, elle a travaillé avec, Laetitia Goffi, qui est une scénariste française et qui est dialoguiste aussi française. Elle a travaillé avec Jean-Christophe Im, qui est un scénariste français. Sophie Le Tourneur a travaillé avec tous ces talents-là. Voilà. Voyage en Italie. Et ben oui. Alors en fait, Sophie Le Tourneur, elle s'est inspirée d'un véritable voyage qu'elle a entrepris en Italie avec son compagnon en 2016. J'ai voulu en faire le récit. C'est ce qu'elle nous dit. Et c'est une comédie burlesque inspirée par mon couple, qui me semble parfois être une caricature de lui-même, mais aussi par ceux que je croisais. Alors en le vivant, dit-elle, certaines scènes ou certaines phrases retenaient mon attention et je les notais sur des pages volantes arrachées à la fin du guide du routard. Alors, de retour de ce voyage avec son compagnon, elle et justement son compagnon en ont fait un récit dans ses moindres détails et l'ont enregistré sur un dictaphone. Et elle s'est appuyée donc sur ses notes et ses enregistrements pour écrire son film. Voilà. Et qu'est-ce qui l'intéresse dans ce film Voyage en Italie ? Ce n'est pas la finalité du voyage, nous dit-elle. Hein. Est-ce que le couple va surmonter la crise qu'il traverse, etc. Non, mais c'est le lien qui unit ces deux individus. C'est ce moment dans la vie d'un couple où l'on regarde en arrière parce que la conjugalité, la parentalité et la vie domestique ont remplacé peu à peu toute l'adrénaline passionnelle du temps de la rencontre. Quelque part, l'un empêche l'autre et le lit conjugal devient le lieu d'une intimité qui n'est plus vraiment sexuelle. Quelque part, c'est un film faussement anecdotique sur ce qui lie ce couple dans sa plus pure trivialité, oui, et dans la complémentarité miraculeuse de ses névroses. Voilà ce qu'elle nous dit sur son film. Et ma foi, ça fait envie quand même, on a envie d'aller voir ce film.
Faudrait qu'on repasse au permis aussi.
Ah bien, c'est très bien amené Thibaut. Une autre comédie qui s'appelle Bonne Conduite. Voilà, mais c'est ça, ça dure 1h35 et c'est Jonathan Barré qui l'a réalisé, on le connaît, le réalisateur, scénariste, acteur français. On a déjà parlé de lui quand même. Jonathan Barré, alors... Alors, il a travaillé avec Laurent Verriot aussi, qui est un scénariste français. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la prévention routière. Formatrice dans un centre de récupération de points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffards la nuit. Ah oui, carrément, hein ? C'est la serial killeuse des routes de nuit. Voilà. Alors le casting est fantastique, quoi. Bon, voilà, on va se régaler. Laure Calamy, c'est elle, la serial killeuse, qui joue le rôle de Pauline dans ce film. Eh ben oui. On a Cheikh Cario, on a David Marsay, on a Grégoire Ludig. Ben, on les connaît, oh là là, on les connaît et on aime leur talent. Eh ben oui. On a Thomas VDB aussi. On a Sixtine au petit, on a Olivier Marchal, et oui, on a Julien Pestel, on a Marion Crevaux, David Salles et Ranière Le Breton. C'est un sacré casting, on les connaît quasiment tous. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, aucun problème. Je trouvais que c'était une comédie sympathique, voilà, et j'avais envie d'en parler quand même, quoi. Alors, pour l'anecdote, Jonathan Barré, là, il est né à Quimper. Et c'est ce qu'il nous dit. Hein. Il a grandi à Douarnenez, dans le Finistère, et il habite en Bretagne. Et il nous dit que c'est l'endroit où je me sens le mieux. J'aurais pu tourner mon film ailleurs, mais quand l'équipe est venue en repérage à Douarnenez, elle a adoré. Au départ, nous avions pensé aller nous installer à Carantec, en Bretagne Nord. C'est un coin magnifique, mais un peu trop carte postale. Un peu trop chic. Voilà. Donc, il fallait pas que ce soit trop chic. Bon, ben maintenant, on le sait. Voilà, donc ça a été filmé à Douarnenez. Et oui, le tournage a dû être très, très, très plaisant, je pense. C'est l'histoire de... Enfin, l'idée, c'est l'idée d'une histoire autour d'une tueuse en série. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, cette tueuse est devenue une animatrice de ce genre de stage qui, pour venger la mémoire de son compagnon adoré, fauché par un chauffard, n'aurait plus qu'une obsession zigouiller tous les conducteurs responsables d'accidents mortels qui tomberaient sous sa coupe. Voilà. Et c'est à partir de ça que le réalisateur a élaboré son scénario. Au fond, c'est une histoire de grosse vengeance, finalement. Grosse vengeance. On doit pouvoir se régaler, je pense, à bonne conduite. Est-ce qu'on garde son permis de conduire après, une fois qu'on a rencontré Pauline, je ne sais pas.
Non, je pense qu'on n'a même pas le temps de récupérer les points.
Donc, et puis Lorca l'a mis quand même, mince, en serial killer. Alors ça, c'est quelque chose. Et puis, alors là, on va passer à autre chose. Ah, ben oui, quelque chose de... C'est une comédie dramatique, un drame. C'est comédie, bon... ça s'appelle The Lost King, c'est-à-dire le dernier roi. Et ça dure 1h49, pardon. C'est de Stephen Frears. Oh là là, je savais que j'allais oublier le premier R. Stephen Frears, qui est un réalisateur, acteur, producteur britannique. Il a 81 ans, il a 55 ans de carrière, 60 tournages à son actif, 67 même. C'est ce que j'avais noté en tout cas. Mais il a eu des prix. Hein. Il a eu 6 prix. J'ai noté 61 nominations dans tous les festivals. Bravo, bravo. C'est quand même pas mal. Ah, mais c'est lui, par exemple, qui a réalisé Florence Foster Jenkins, qui est une comédie qui a très, très bien marché. Qui est une comédie avec Meryl Streep et Hugh Grant. Qui est quand même très, très savoureuse. Cette dame très riche qui croyait qu'elle avait une voix d'opéra et qui chantait épouvantablement mal, mais qui continuait à chanter. Voilà. C'était assez terrible. Et là, il avait eu des nominations pour ce film, entre autres. Voilà. Et là, il nous dit quoi ? Il nous parle de quoi ? Inspiré d'une histoire incroyable, mais vraie, de Lost King, retrace l'extraordinaire aventure de Philippa Langlais, elle est passionnée d'histoire à la volonté de faire, elle est passionnée d'histoire, elle a une volonté de faire, qui, sur une simple intuition, cette Philippa, sur une simple intuition, pardon, j'en bégaye, bon sang. Donc, Philippa Langlais, sur une simple intuition, et malgré l'incompréhension de ses proches, et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l'un des monarques les plus controversés de l'histoire. Je rappelle vite fait, Richard III, 1452-1485. Ce gars-là, quand même, a fait enfermer à la Tour de Londres ses deux neveux. Bah oui, parce qu'il voulait être roi, donc il s'est débarrassé d'eux, Édouard V et Richard de Soubry. Et voilà quoi. On dit de lui que c'était un tyran machiavélique, monstrueux, coupable d'infanticide. Voilà, c'est ce qu'on peut aussi d'ailleurs comprendre dans la pièce de William Shakespeare, une pièce de jeunesse hein, qui s'appelle Richard III. On s'aperçoit que c'est un type complètement fou. Il est décédé pendant une bataille d'ailleurs. Il est décédé en 1485 pendant la bataille de Bosworth contre Henri Tudor. Et Henri Tudor a gagné et il est devenu roi à sa place, justement en 1485. Donc elle veut rétablir ça, cette histoire incroyable. Alors Philippa Langlais est jouée par Sally Hawkins. Ensuite on a Steve Coogan, on a Harry Lloyd, on a Mark Addy dans les rôles principaux. Bon bah ce sont des acteurs britanniques, hein. Donc on va faire leur connaissance, c'est très bien. Moi j'en connais deux, je sais pas vous mes chéris si vous en connaissez, dans les noms que j'ai cités, mais ça fait rien justement, on va faire leur connaissance. Ça tombe très bien. Apparemment, ce sont des gens qui ont du succès en tout cas là-bas, chez eux. On a James Fleet, on a Benjamin Scanlan, voilà, dans les rôles principaux. Des acteurs qui tournent pas mal, apparemment, dans des films britanniques. Et la plupart des gens, hein, bon, on s'en souvient, oui, on se souvient vaguement de la découverte de la dépouille de Richard III. Comme il nous dit d'ailleurs, le réalisateur nous dit, c'est le genre d'histoire dont on a tous plus ou moins entendu parler, mais dont personne ne connaît l'invraisemblable réalité dans sa globalité. C'est ça, oui, c'est vrai que ce qu'on connaît sur Richard III, c'est ce que je viens de citer sur lui, là, ce que je viens de dire, hein, tout ce qu'on dit sur lui, que c'était, enfin, on peut résumer en disant que c'était quand même un sale type. Et elle veut rectifier ça. Voilà. Alors, oui, parce qu'il y avait eu un gros titre, ah oui, c'est ça que j'avais noté dans un journal, là-bas, ça a inspiré d'ailleurs justement les scénaristes. Une mère de deux enfants, originaire d'Édimbourg, a retrouvé la dépouille d'un roi disparu dans un parking. Avant tout, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de femmes ignorées et oubliées par la société. Des gens modestes, oui, qui ne s'en laissent pas compter et qui ne prêtent pas toujours qu'on leur raconte pour parole d'évangile. Les gens n'aiment pas l'injustice, c'est ce que nous dit le réalisateur. Ils aiment les histoires à la David et Goliath. Et c'en est une dans la mesure où elle oppose une simple amatrice à tout un système institutionnel. Et voilà. Alors, ce n'était pas évident. Philippa Langlais a eu quelques soucis parce qu'elle elle disait simplement qu'elle voulait raconter une vie à laquelle on ne croyait pas une seconde. Enfin, voilà, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc, elle a voulu, je sais pas, on peut pas dire restaurer Richard III, enfin, sa réputation. Mais elle explique des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît.
Ah ouais. Et pour mieux voir ce qu'elle explique, du coup, je te propose de lancer la bande-annonce.
Mais oui, merci.
Donc tout de suite, bien. La bande-annonce de The Lost King.
Philippa, j'en suis venu à l'idée que tu es au niveau adéquat pour toi. On va pas se voiler la face, tu as eu des soucis.
Le syndrome de fatigue chronique est une maladie reconnue.
On peut pas se passer de tes revenus.
Je n'ai d'autre plaisir pour passer les heures que d'épier mon ombre au soleil et de t'écrire ma propre difformité.
J'ai une idée en tête. J'ai fait tout un tas de recherches. Toutes les informations dont j'ai besoin pour le trouver sont à ma portée. Je suis sûre que je vais le trouver, moi.
Trouver qui ?
Ben, Richard.
Quel Richard ?
Richard III.
Le roi ?
J'ai entrepris de faire des recherches pour retrouver la sépulture de Richard III. La plupart des gens ont une image de Richard déplorable.
Richard III fut un fichu usurpateur.
On a pu manipuler l'information.
Mais où tu vas ?
Par l'aventure. J'ai la sensation d'être sur la bonne route.
Une sensation, c'est quand on s'assoit dans le bus après quelqu'un et que la banquette a gardé sa forme.
Il est tout simplement tombé dans les limbes de l'histoire.
Retrouver le corps serait quasi impossible.
Je veux que tu reviennes à la maison.
Pour faire couple à trois avec un fantôme.
Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi on a mis un R là ?
C'est R pour réserver.
Bien sûr, réserver.
C'était la bande-annonce de The Lost King et maintenant je te propose de passer du coup encore au prochain film avec Vengeance.
Je voulais quand même ajouter que le périple de Philippa là a une valeur métaphorique et Richard y joue un rôle important. C'est pour ça que cette histoire est aussi riche et universelle. Au fond, on nous dit, on devrait tous avoir un Richard III qui nous guide sur notre trajectoire. C'est un film qui n'est pas courant, hein. C'est pas courant ce genre de film. Hein. C'est pour ça que je voulais en parler. Et c'est pas évident à expliquer non plus. J'espère que j'ai été à peu près claire. Est-ce que tu as compris à peu près ce que je disais sur le film ?
Oui, j'ai compris, moi.
Bon, parce que c'est pour ça que je pense que c'est un film intéressant. Parce que c'est pas le genre de film qu'on voit tous les jours. Et c'est produit par la Grande-Bretagne. Hein. Alors, tu as dit que tu voulais aller… Ah, tu veux te venger. Très bien. Ça s'appelle Vengeance. Ça dure 1h49. C'est un thriller. Donc, c'est l'histoire d'un journaliste et podcasteur, Ben Manalowicz voyage, il voyage de New York à l'ouest du Texas pour enquêter sur la mort d'une fille qu'il fréquentait. Là, c'est un, voilà, c'est un thriller. Et B.J. Novak, c'est un acteur, scénariste, producteur américain. Voilà, qui a 16 ans de carrière et qui a eu des prix déjà. Ouais, je voulais citer ce film quand même. Vengeance. Ensuite,
du coup, c'est le dernier film, je crois. Effectivement, mais, c'est le dernier film pour aujourd'hui.
Mais oui. Tout à fait. Alors, ça s'appelle Shazam, point d'exclamation, la rage des dieux. Alors, ça dure 2h11, c'est fantastique, c'est de l'aventure, c'est de l'action. Oh là là, mais on connaît tous le premier Shazam, je pense, qui est sorti en 2019. C'était toujours le même réalisateur qui s'appelle David F. Sandberg et qui est un réalisateur, producteur, acteur suédois. Voilà, il a 42 ans, 7 ans de carrière, 10 tournages à son actif et c'est lui qui était déjà aux commandes en 2019 pour le Shazam. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes acteurs, hein. Il n'y a pas grand-chose de changé. Donc, il a travaillé avec Henry Gayden, oui, et Chris Morgan. Déjà en 2019, il avait travaillé avec eux. Ce sont des scénaristes qui ont l'habitude de travailler avec lui. Alors, c'est la suite, hein, des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte, lorsqu'il prononce le mot, vas-y, dis-nous le mot qu'il prononce pour devenir un super-héros.
Shazam.
Shazam, voilà. Billy Batson, cet adolescent. Eh ben oui, il dit Shazam. Oh, ben, moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Hein. Je ne suis pas devenue…
Non, moi non plus.
Ah mince, ah, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, investi des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado avec leur responsabilité de super-héros dès lors qu'ils se transforment en adultes. Mais quand les filles de la classe, trio d'anciennes déesses, ivres de vengeance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée, il y a très longtemps, Billy, alias Shazam, et sa famille s'engagent dans une bataille destinée à conserver leur super-pouvoir, à rester en vie et à sauver la planète. Mais une bande d'adolescents peut-elle vraiment empêcher la destruction du monde? Et surtout, Billy en a-t-il seulement envie? Ah, on se pose la question quand même. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Et oui, alors Shazam, c'est Zachary Levi. Il était déjà dans le premier, hein, on se souvient de lui. Asher Angel, eh oui, c'est Billy Batson. Zachary Levi, c'est Shazam. Eh ben oui, parce que ça peut pas être le même acteur, bien entendu. On a Jack Dylan Grazer aussi. On a Lucy Liu, qui était aussi déjà dans le premier. Je crois, il y a aussi quand même des petits nouveaux. On a Hélène Mirren aussi. On aime beaucoup Hélène Mirren. Ah ouais. On a Rachel Zegler. On a Adam Brody. On a Ross Butler dans les rôles principaux. Il y a un monde fou dans ce film. Un monde fou. Ah ben oui, il y a énormément de personnages. C'est ce qui en fait son charme d'ailleurs. C'est tous ces personnages. Voilà, donc c'est quand même… Alors c'est produit par les USA évidemment. Shazam, alors c'est bon, ben c'est la suite hein, de Shazam, on est d'accord. Mais en fait, si on n'a pas vu le premier, on peut quand même aller voir celui-là. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On va suivre sans souci. Dites donc. Oh là là, t'es assis Thibaut, parce que dis donc,
ce film… Oui, je suis assis, mais…
Ah bah oui, il a rapporté plus de 367 millions de dollars de recettes dans le monde.
S'ils veulent bien, j'en prends un petit peu.
Aïe, aïe, aïe.
J'ai un grillage à refaire, ça ne devrait pas leur coûter si cher que ça.
Mais le réalisateur suédois, là, il a David F. Sandberg, il nous dit « Ce qui m'a le plus emballé dans ce nouvel opus, c'est d'explorer la manière dont ces adolescents évoluent et collaborent en tant que super-héros. Et comme on peut s'y attendre, ce n'est pas toujours une réussite. comme Shazam. Ils sont tous encore bien candides, même si certains sont plus mûrs que d'autres, et ils mènent leur vie d'adolescents. Eh oui, et voilà. Il était donc très emballé de retrouver aussi les acteurs, l'équipe technique qu'il avait eue en 2019. Il les avait énormément appréciés, dit-il. Eh ben oui. Mais là, je pense que tout le monde va se ruer sur Shazam. Tous ceux qui l'ont vu, qui ont vu le premier. Il y a pas de problème là. Et puis, bon, j'avais trois documentaires. Je voulais en parler. Est-ce que j'ai un peu de temps encore?
Un petit peu. On n'a pas grand-chose, mais on a un peu de temps.
Un petit peu. Alors, le premier auquel j'ai pensé, c'était sur l'adamante. Sur l'adamante, ça dure 1h49. C'est un documentaire de Nicolas Philibert, qui est un réalisateur français. Hein. Il est monteur, il est directeur de la photographie également. Il a 51 ans de carrière. Et alors, l'adamante, c'est un centre de jour unique en son genre. C'est un bâtiment flottant. Il est édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris. Il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques. Il leur offre un cadre de soins qui les structure dans le temps et l'espace, et il les aide à renouer avec le monde et à retrouver un peu d'élan. L'équipe qui l'anime est de celles qui tentent de résister autant qu'elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après jour le quotidien. Ça, je voulais en parler. Je ne connaissais absolument pas l'adamante, moi. Tu connaissais, toi, Thibaut ?
Non, ça ne me dit rien du tout.
Je ne connaissais pas du tout. Ensuite, j'avais Le Voyage d'Anton, qui dure 1h13. C'est un documentaire de Mariana Loupane, qui est une réalisatrice française. Et c'est une... Alors, Le Voyage d'Anton, c'est l'histoire d'Anton Hirschfeld, qui est un jeune homme porteur de handicap mental et qui deviendrait un jour un artiste peintre reconnu. Le Voyage d'Anton retrace son parcours, filmé depuis sa naissance par sa mère. C'est un voyage rendu possible grâce à la détermination, l'amour de sa famille et aux rencontres fondamentales qui ont jalonné son chemin. Voilà, il est né en 1992 à Paris, Anton Hirschfeld, et il a commencé à peindre à l'âge de 16 ans. Ça me semblait vraiment très intéressant. Ce personnage me semblait vraiment intéressant. Et puis j'avais également « Cet hiver à Téhéran ». C'est un documentaire qui dure 1h37 de Steffi, alors que je n'écorche pas trop son nom, Steffi Niederzoll, qui est une actrice, réalisatrice, scénariste allemande. Et c'est pareil, j'ai trouvé que c'était un documentaire extrêmement intéressant. Ça se passe en 2007 à Téhéran, Rehaneh Jabari, qui a 19 ans, poignarde l'homme sur le point de la violer. Rehaneh Jabari, on a entendu parler d'elle, hein. Beaucoup. La télévision, la radio, non. La presse aussi a parlé beaucoup d'elle. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. À partir d'images filmées clandestinement, cet hiver à Téhéran montre le combat de la famille pour tenter de sauver Rehaneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran. C'est une personne dont on a beaucoup entendu parler. D'ailleurs, elle est dans le documentaire, hein, Rehaneh Jabari. Voilà, on a Chol Pakravan aussi, on a Zahar Amir Ebrahimi dans le film. Elles sont elles-mêmes, elles jouent leur propre rôle. Voilà, je trouvais que c'était aussi intéressant. Voilà.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter alors.
Tout à fait. On se quitte là-dessus, sur ces trois documentaires.
Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine, à savoir que toutes les bandes annonces de tous les films cités aujourd'hui sont à retrouver sur le site, donc sur le podcast de la radio. Et je te laisse terminer alors.
Tout à fait, ben oui. Oui, alors, passe une bonne semaine.
Hein, ben voilà. Merci, toi aussi.
Oui, prends bien soin de toi aussi, tout ça. Et puis mes chers amis, tu vois, je dis mes chers amis, ça m'a échappé, vraiment. Mais ce sont des amis, nos auditeurs, n'est-ce pas, Thibaut? Ce sont
les... Oui, évidemment.
Mais mes chéris, en tout cas, passez une bonne semaine aussi. Essayez d'être heureux le plus possible, et puis carpe diem, hein, profiter de la journée du matin au soir. Voilà. Que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
Sur REM.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse, mais échange de mon procédé. Si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu, ben nous serons les bienvenus.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Je ne sais pas.